Il n'y a pas besoin d'opposer la nature à l'économie, l'humain à l'économie, tout ça doit aller de pair.
J'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir des managers qui m'ont toujours tiré vers le haut.
Seule la puissance d'un collectif permettra de relever les défis.
L'envers du décor est très précieux, ça vous apprend beaucoup sur les êtres et sur leur manière de se comporter.
Après, les questions s'arrêtent, on revient à son exercice, à son métier, quoi, et on fait ce qu'on doit faire.
Sur Radio Classique, vous écoutez les chefs d'entreprise parler stratégie, investissement et résultats financiers. Mais pour vraiment les comprendre, il faut aussi connaître leur parcours, savoir quels sont les grands événements qui les ont marqués et ceux auxquels ils ont participé. C'est ce que ces femmes et ces hommes viennent raconter dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez la saison 3 de Secrets de dirigeants. Dans la précédente saison, je vous avais fait découvrir Michel Pébrot, l'ancien dirigeant de BNP Paribas. Il faisait à la fin des années 90 la pluie et le beau temps dans la finance française. Un autre des acteurs importants de cette période-là, pour ne pas dire l'un des crocodiles du Marigot, c'est Jean Perlevade. Lui aussi était à la tête d'un établissement bancaire, le Crédit Lyonnais, à l'époque banque publique en grande difficulté. Après avoir été conseiller de Pierre Mauroy à Matignon, il est passé par l'assureur UAP avant d'arriver à la tête du Lyonnais à une époque mouvementée. C'est à ce moment-là qu'il récupère un dossier compliqué dont la gestion a pour le moins été baroque, celui de Bernard Tapie. L'homme d'affaires, ministre éphémère à l'époque de François Mitterrand, avait dû revendre Adidas à la banque, Adidas qu'il qualifiait à l'époque d'affaire de sa vie. La revente de la marque aux trois bandes quelques années plus tard à Robert Louis Dreyfus pour le double du prix d'achat déclenchera ce que l'on appelle l'affaire Adidas. S'engage alors un bras de fer qui va durer plusieurs décennies et qui aboutit en 2008, après un arbitrage, au versement de 240 millions d'euros, dont 45 millions pour préjudice personnel. Une décision contestée, suivie d'une action en justice, d'un pourvoi en cassation, puis d'un nouveau procès qui est en cours, lorsque l'affaire rebondit une dernière fois, le 3 octobre 2021.
La disparition de Bernard Tapie, l'ex-homme d'affaires vient de mourir à 78 ans. Bernard Tapie, c'est un parcours hors norme. Il a été président de l'OM, ministre, homme de médias, acteur, chanteur. Son nom est également lié au scandale du match truqué OM Valenciennes qui lui a valu un passage en prison. Bernard Tapie, une vie marquée par des succès et des échecs. Il sera enterré à Marseille, sa ville de cœur.
De cette affaire, Jean Perlevade a fait un livre, l'affaire Tapie, Vérité et mensonge, paru aux éditions Odile Jacob. Et pour commencer, il nous explique pourquoi il a décidé de raconter sa version des faits.
Je me suis rendu compte depuis longtemps que Bernard Tapie était un personnage qui, en réalité, avait peu à voir avec l'image qu'il avait réussi à construire. Donc, je savais que sa bataille contre le Crédit Lyonnais, d'une certaine façon contre moi-même, même si on ne s'est jamais vu, ça relevait de la fiction. Mais il meurt, il disparaît, je me suis dit c'est fini, c'est terminé.
L'histoire est éteinte.
L'histoire est éteinte. Simplement, il a quand même été l'auteur, avec quelques aides, de la plus grande tentative de corruption de l'État, avec l'aide du pouvoir exécutif, depuis l'affaire Stavisky ou depuis l'affaire du canal de Panama. Donc, comme j'avais été injurié à l'une des rares séances de justice où j'étais allé, injurié par lui, j'avais décidé d'écrire mes souvenirs dans un coin pour que ça reste pour un historien, etc. Et puis, au mois de septembre dernier, donc mon livre était écrit déjà depuis 2020, pratiquement. J'avais déjà gagné sur le fond, puisque l'arbitrage avait déjà été considéré par la justice civile comme frauduleux.
Ensuite, Bernard Tapie décède.
Il décède, et au mois de septembre dernier, brusquement, je vois ressurgir sur plein de télévisions, dont certaines publiques, des séances, des documentaires, des choses en apparence sérieuses, où la légende revient. Et où je suis à nouveau accusé, plus ou moins explicitement, d'avoir martyrisé ce malheureux Tapie. Et donc, je me suis rendu compte que la légende du personnage revenait, qu'elle n'avait pas disparu. Et donc, c'est pour moi, Bernard Tapie, c'est avec quelques décennies d'avance, c'est Donald Trump. C'est un Donald Trump à la française, qui a failli réussir. qui a failli faire une très grande carrière politique, qui avait exactement les mêmes comportements que ce qu'on reproche à Trump aujourd'hui dans les relations avec l'argent, avec les personnes, avec... Et je me suis dit, mais compte tenu de l'état où se trouve le pays, des hommes politiques dont les Français pensent qu'ils sont corrompus, les critiques contre la justice, l'affaire Tapie, on a été sauvé, l'État a été sauvé par la justice, contre le pouvoir exécutif. C'est la Cour des comptes qui a remis les choses à plat, si j'ose dire. Et donc je me suis dit, ça, c'est mon devoir citoyen de témoigner. Oui, on a eu, avec l'aide de l'État, l'aide du pouvoir exécutif, on a failli fabriquer un vrai Donald Trump à la française.
Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a un tel attachement et un tel engouement du public pour Bernard Tapie?
Il avait d'immenses qualités. Et je pense d'ailleurs, mais ça c'est psychique si je puis dire, hein, il faudrait reciter Freud, je pense que s'il avait fait une carrière honnête, compte tenu des qualités qu'il avait, il aurait fait une magnifique carrière de toute façon. Et il serait peut-être arrivé là où il voulait arriver, c'est-à-dire au sommet de l'État.
À la présidence de la République.
À la présidence de la République. Mais il ne pouvait pas s'empêcher, je vous rencontre, vous me plaisez, et immédiatement le réflexe c'est comment je vais pouvoir vous tromper? Comment je vais pouvoir vous rouler? Comment je vais pouvoir vous...
Vous utiliser?
Vous utiliser. Comment je vais pouvoir vous corrompre? Comment je vais... Quels sont tous les moyens illégaux, entre guillemets, que j'ai pour arriver à mes fins.
Alors reprenons les faits. En 1992, Bernard Tapie entre au gouvernement. En parallèle, il n'est pas en mesure de payer au Crédit Lyonnais, qui est sa banque, la deuxième tranche de remboursement du prêt qui a été fait auprès de la banque pour acheter Adidas. Il revend donc l'équipementier au Crédit Lyonnais. Vous, à cette époque-là, vous n'êtes pas au Crédit Lyonnais.
Moi, je ne suis pas au Crédit Lyonnais au moment de l'achat d'Adidas, qui est à l'été, je sais pas, 90, je crois, ou 91. Je ne suis pas au Crédit Lyonnais, je n'y arrive qu'à la fin 93.
Quand vous arrivez, le Crédit Lyonnais revendu Adidas.
A déjà revendu Adidas. Adidas a déjà été revendu. Donc pour moi, Adidas est un dossier
clos.
Qui n'existe pas, clos. Et je m'aperçois, en regardant les autres affaires de Bernard Tapie, que contrairement à la légende qu'il essayait d'installer, c'était pas un gestionnaire du tout. C'était pas un homme d'affaires digne de ce nom. La seule chose qu'il savait faire, c'était acheter et revendre. Parfois avec des résultats positifs, parfois avec du bénéfice. Mais il n'a jamais rien géré. Et donc, l'ensemble qui lui restait, après avoir vendu Adidas, et après avoir d'ailleurs encaissé une petite partie de la plus-value, l'ensemble était en état de cessation de paiement. Et je m'en suis rendu compte en arrivant.
Dans votre livre, vous décrivez toute l'histoire et pourquoi le Crédit Lyonnais se retrouve à devoir, à un moment donné, récupérer Adidas. Les décisions qui sont prises sont pour le moins surprenantes, surtout venant de gens qui sont des banquiers. On accorde beaucoup de facilité à Bernard Tapie. Comment vous expliquez ça?
Ce sont ses appuis politiques. Autrement dit, c'est un homme d'affaires de très mauvaise qualité, qui est en état de cessation de paiement et qui bénéficie du soutien permanent du pouvoir politique, ou des pouvoirs politiques, parce que...
C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est François Mitterrand.
C'est François Mitterrand.
Et la gauche.
Et la gauche.
Vous, à l'origine, vous êtes socialiste. Vous avez fait partie
du
cabinet de Pierre Mauroy.
Absolument.
À Matignon.
Absolument. Mais j'ai jamais été très mitterrandiste. Il se fait soutenir par les hommes politiques. Et donc, l'idée pour un président du Crédit Lyonnais, mon prédécesseur,
à l'époque, la banque est publique.
La banque est publique. C'est une banque publique, gérée par l'État. Donc c'est en ce sens que je trouve ça scandaleux. Elle est gérée par l'État. C'est la responsabilité de l'État si elle est en état de quasi-faillite, s'il y a 70 000 emplois qui sont menacés, si elle manque d'exploser en vol. C'est la responsabilité de l'État. Et là-dessus, ben, quand M. Tapie a des ennuis de remboursement, il suffit manifestement... Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin d'un coup de téléphone. L'état-major du Crédit Lyonnais ne va pas toucher à M. Tapie. Donc, chaque fois qu'il a besoin d'argent, on lui fait un chèque.
Et ce qui est surprenant, c'est que cette attitude de l'état-major du Crédit Lyonnais, on le retrouve dans d'autres dossiers où il y a des pertes qui sont énormes, où à chaque fois on remet au pot. Enfin, c'est une gestion qui est l'inverse de celle qu'on peut imaginer pour une banque.
Oui.
En plus, une banque publique. Pourquoi est-ce que Bernard Tapie continue à expliquer et à vous reprocher, à vous qui n'êtes pas dans la banque au moment où ça se fait, d'avoir enregistré une énorme plus-value pour le Crédit Lyonnais? Pourquoi est-ce qu'il continue à faire de cette affaire, en fait, quelque chose d'aussi fort, quel est son objectif?
Lorsque je le mets en défaut de paiement, lorsque je constate après un certain nombre d'hésitations qu'il n'y a pas d'autre solution, donc je le mets en défaut de paiement, à l'époque c'est 150 millions de francs, c'est contrairement à ce qu'il essaie de faire croire, c'est pas un énorme truc, hein, c'est 0,2% des pertes du Crédit Lyonnais.
Oui, hein, qui donc, sont énormes, qui sont abyssales. Ouais.
J'avais des choses plus sérieuses à faire. Au moment où je le mets en état de faillite, il se trouve que les structures juridiques qu'il a choisies, lui, pour organiser sa pyramide de société, et qu'il a organisées manifestement pour éviter de payer des impôts, c'est-à-dire avec un motif relativement stupide, font qu'il est engagé à titre personnel sur la totalité de son patrimoine.
Lui et son épouse sont engagés sur leur patrimoine, c'est-à-dire sur leur...
La totalité de leur patrimoine. Alors qu'en général, quand on constitue une société...
On
vos risques
bien les
sont
deux.
Limités à l'argent que vous mettez dans la société. Là, ils sont sans limite. Et donc, il est en faillite personnelle à cause de ce que je viens de vous dire. Il est en faillite personnelle et ce que je ne savais pas à l'époque, que j'ai découvert au moment où il a été mis en faillite personnelle, c'est qu'à l'époque, ça n'est plus le cas aujourd'hui, la faillite personnelle entraînait de plein droit l'inéligibilité.
Pour 5 ans. Et alors là, ça brise sa carrière politique.
Et donc, j'ai cassé sa carrière politique. Sans même le savoir au moment où je le mets en défaut de paiement. Et donc, il se trouve que, par une coïncidence malheureuse, encore que, bon, je me demande si la coïncidence est vraiment une coïncidence, il est mis en faillite personnelle, fin 94, juste au moment où le nouveau patron d'Adidas...
Robert Louis Dreyfus, qui a remonté la boîte entre-temps,
qui a remonté la boîte
et qui fait des bons résultats, mais parce que lui est un professionnel et qu'il a refait
le... On oublie de dire que ça se passe 4 ans après l'achat initial par Bernard Tapie, hein, donc 4 ans pour... il exerce son option, il voulait pouvoir tout racheter dans l'hypothèse où il était convaincu que ça allait très bien se développer.
Oui, parce qu'il y a un accord qui est fait pour que Robert Louis Dreyfus commence à redresser la boîte avant d'en être totalement propriétaire, à redresser Adidas.
Il a l'option de devenir totalement propriétaire quand il le veut. Il devient totalement propriétaire et il exerce son option à un prix qui était un prix convenu dès le départ, qui est le double du prix de vente initial par Bernard Tapie. Donc Bernard Tapie a vendu... sa part et celle des autres actionnaires pour 2 milliards de francs, et là, Louis Dreyfus
le rachète,
en rachète pour 4. En même temps que Bernard Tapie tombe en faillite.
Bon.
Et donc, la réaction presque immédiate a été de dire « Tout ça, c'est un montage, c'est le Crédit Lyonnais qui avait acheté Adidas pour 2 milliards, et dès le début, le Crédit Lyonnais avait revendu
En sous-main, sans le dire,
avec des structures offshore.
Il y a tous les éléments pour faire un bon fantasme.
Voilà. Or, pour construire ça, pour construire ce roman, il lui fallait un adversaire.
Et donc cet adversaire, c'est vous.
Et non, ça ne pouvait pas être M. Abrère.
Qui était le précédent président du Crédit Lyonnais.
Qui avait fait le montage.
Et qui sera interrogé des années plus tard sur sa gestion de la banque.
Mais pas sur l'affaire Tapie. Pas sur l'affaire Tapie. C'est lui qui avait fait le montage. C'est lui qui s'est opposé à l'époque à ce que le Crédit Lyonnais prenne la pleine propriété d'Adidas. À un prix réel, c'est-à-dire pas très cher.
Et puis vous en avez rajouté une couche quand il y a eu l'arbitrage, où vous avez demandé l'arbitrage qui intervient très longtemps après, où on donne à Bernard Tapie presque 500 millions d'euros, ce coup-ci, puisqu'on a changé d'unité.
Oui, oui.
Là, vous dites aussi au niveau de l'arbitrage, vous demandez à être reçu, à être écouté et entendu par les députés pour expliquer que ça vous paraît pas tout à fait normal ce qui s'est passé.
Donc, il construit son système, son mythe. C'est le Crédit Lyonnais qui m'a roulé. Il finit par perdre en justice. Il gagne devant une cour d'appel, mais c'est cassé immédiatement par la cour de cassation. Et c'est cassé dans des conditions telles que pour moi, le dossier est terminé. Je veux dire, la prochaine cour d'appel, elle va... Et à ce moment-là, il s'appuie sur Sarkozy, qui vient d'être élu président de la République, qui vient d'être élu. Immédiatement après, Sarkozy dit, on va à l'arbitrage. Et l'arbitrage, ça c'est une anecdote intéressante, normalement les décisions d'arbitrage, elles sont rendues publiques, le verdict est rendu public, mais le texte de l'arbitrage, normalement, est secret. Personne n'y a accès. Il y a quelqu'un, je ne saurais jamais qui manifestement trouve que cette fois-ci c'était trop. Donc le lendemain, je le trouve in extenso sur le site internet de l'Express, les 100 pages.
Et donc là, on repart de nouveau.
Alors là, je lis, je ne suis pas le seul, hein. On n'est pas très nombreux, hein. 5, 6, 7, à se mettre à hurler. En disant, mais c'est totalement bidouillé, c'est total, ça n'a rien à voir avec la réalité, c'est un arbitrage complètement inventé. Il y a la Cour des comptes qui va regarder ce qui s'est passé. Et la Cour des comptes revient en disant, je mets en cause Christine Lagarde, ministre des Finances. Je mets en cause le président du CDR. Je traduis d'ailleurs tout de suite, moi, Cour des comptes, le président du CDR, devant la Cour dite budgétaire.
Alors le CDR, c'est une structure qui est mise en place, on va y revenir aussi, à un moment donné pour récupérer une partie des actifs qui n'étaient pas bons du Crédit Lyonnais.
Pour gérer
l'extinction des actifs.
Pour gérer une partie des actifs du Crédit Lyonnais. Et surtout, alors que j'ai les preuves contraires de tout ce qui est affirmé dans l'arbitrage, je ne suis jamais appelé à témoigner. C'est-à-dire, je ne me suis pas rendu compte que dès le début, il y avait une partie du pouvoir exécutif qui jouait le jeu de Bernard Tapie.
Il y aura ensuite des poursuites contre les anciens dirigeants du Crédit Lyonnais. Vous commencez enfin à sortir un peu la tête de l'eau. Et puis dans la nuit du 5 au 6 mai 1995, on vous appelle pour aller au siège historique du Crédit Lyonnais, qui est boulevard des Italiens à Paris, parce que le siège est en feu. Comment est-ce que vous réagissez à ce moment-là ?
Ça se passe pas comme ça exactement. Il se trouve, Dieu merci, parce que sinon j'aurais été suspect, j'ai terminé une semaine de vacances chez moi à Carqueiranne.
Dans le Var.
Et donc, le dimanche matin, Pascal Lamy m'appelle et me dit, il y a un feu
au siège,
dans la partie marché.
La salle des marchés était installée en haut du siège. C'était une salle de marché révolutionnaire, c'était une des premières, avec de l'électricité câblée, enfin vraiment
partout,
un truc...
plein de câbles électriques, plein de calculateurs, plein de ceci, plein de cela... Il me dit, mais la situation est sous contrôle. Je dis, bon, très bien, je bouge pas.
À l'époque, l'ami, il est où ? Il est à la banque ? Il travaille avec vous ?
Oui, il travaille avec moi. Il est directeur général. Je l'ai embauché comme directeur général. Et vers midi, 2 heures plus tard, il m'appelle. Et c'est la première fois que je sens dans la voix de Pascal Lamy...
Qui est plutôt quelqu'un qui a un caractère constant.
Il est d'un calme absolu. Je sens qu'il est perdu. Il me dit, ça n'est plus sous contrôle.
C'est-à-dire qu'en 2 heures, le feu s'est tellement dégradé. La salle des marchés qui a pris feu est une structure métallique qui fond sur le reste du bâtiment.
Qui fond et tout le bâtiment s'écroule. Je prends un avion tout de suite et j'arrive directement au siège du Crédit Lyonnais qui est en train de brûler. Je suis en tenue d'été, donc en chemisette, brun parce que je viens de passer une semaine au soleil. Naturellement, il y a des flics partout. Ils me disent, mais monsieur, qu'est-ce que vous venez faire ?
Il y a plus de 300 pompiers qui sont mobilisés plusieurs jours pour éteindre l'incendie.
Voilà. Et là aussi, si vous voyez, la différence entre ce que je suis bien obligé d'appeler le professionnalisme des équipes et autour de nous l'incapacité de l'État dans ses différentes actions, vous savez que le lendemain de l'incendie, nous fonctionnions.
Oui, parce que vous aviez une salle de marché de secours, ce qui est la règle dans les établissements bancaires, que les données sont sauvegardées. Il y a une partie en interne, mais il y a une copie qui est sauvegardée ailleurs. Ça, c'est le principe de toutes les banques. Et donc, le lundi matin, les 2500 collaborateurs qui devaient travailler là ne viennent pas travailler, mais une partie peut déjà recommencer à travailler. Et vous n'avez perdu aucune donnée.
Aucune. Il nous manquait une journée, la dernière, et j'ai 4 jeunes gens complètement fous qui sont descendus pendant l'incendie au sous-sol pour récupérer les données de la journée
qui
nous manquait.
Qui risquait de manquer.
Et donc le lendemain, je les ai vus, je les ai reçus, je les ai à la fois engueulés
et remerciés. Cet incendie, évidemment, il ouvre de nouveau la porte à des fantasmes. Quelques mois plus tard, il y a un autre stockage du Crédit Lyonnais qui est en banlieue, qui prend feu, dans lequel il y a les archives. Comment vous expliquez qu'à chaque fois qu'il se passe un truc au Crédit Lyonnais, ça déclenche du fantasme? Les gens disent on a détruit des preuves, c'est tombé au bon moment, il commence à y avoir des choses qui allaient être révélées. À chaque fois, il y a toujours un soupçon.
Il faut bien voir que le nombre d'affaires
sensibles
que nous avions fabriquées est gigantesque.
Il y avait la MGM qui est aussi la
MGM, Monsieur Paretti, de l'immobilier avec des abus de biens sociaux, je vous dis pas, etc., etc., etc. Dans tous les domaines. C'était pas le centre. C'est ça la seule explication rationnelle que je puisse trouver. C'était pas tellement le centre du Lyonnais. C'était les filiales. C'était toute la gamme des filiales qui faisaient exactement n'importe quoi et qui n'étaient pas sous le contrôle
de
du centre, parce que Monsieur Abrer avait coupé
les liens,
les contrôles. Et c'est quelque chose dont j'ai eu beaucoup de mal à me défaire moi-même, hein, pour moi personnellement. Étant président du Crédit Lyonnais, la réputation du Crédit Lyonnais était telle que je devenais moi-même sale, quoi. J'étais forcément compromis. C'était pas possible que j'ai réussi à gérer de manière innocente un ensemble où il y avait
De dossiers pourris,
etc.
Par la suite, il y a eu des enquêtes. On n'a jamais réussi à savoir ce qui s'était passé.
Non,
ça aussi, ça entretient le mythe.
Ben non, vous savez, pour les incendies, c'est assez fréquent, hein.
On a même parlé de fraude à l'assurance, puisqu'à l'époque, il y a un gros pool d'assureurs français qui assure le siège, qui vous verse 1,5 milliard de francs. On a parlé de tout. Enfin, il y a eu toutes les hypothèses qui sont arrivées.
Si j'avais mis le feu moi-même, oui, l'assurance n'aurait pas payé. Voilà, hein, je résume.
Voilà, bon.
Comme j'étais à Kerkéran, difficile de penser que depuis Kerkéran, j'avais
allumé l'incendie parce qu'il y avait
envoyé une allumette. Hein. Cette suspicion était permanente. Et ce qu'il y a de très grave, c'est qu'elle était partagée par l'État. C'est-à-dire que l'État, pour faire admettre son comportement absolument aberrant
pendant la période précédente,
ben, la thèse la plus facile, la plus naturelle, c'était de dire de toute façon, le Crédit Lyonnais, c'est pourri. J'en ai payé les conséquences, puisque l'affaire Executive Life, qui arrive en 2003, pour moi, il n'y a aucun délit d'aucune sorte. L'État a payé 700, 800 millions d'euros, et moi, je me suis payé 2 ans...
D'interdiction.
De sortir de France. J'étais sous mandat d'arrêt international pendant 2 ans. Et donc, comment j'en suis sorti? Parce que, précisément, j'ai réussi à prouver qu'il n'y avait aucun délit.
Comment est-ce que vous vivez cette période où tout ce que vous touchez, vous avez l'impression que c'est miné, où il y a en permanence une suspicion, et sur l'établissement bancaire, et sur vous?
Sur moi, je m'en fiche. Sur moi, honnêtement, je m'en fiche parce que... Enfin, je m'en fiche tant que ça ne m'empêche pas d'agir. Je suis rentré au Lyonnais après avoir beaucoup hésité. C'est Édouard Balladur qui voulait à la fois me vider de l'UAP et en même temps me proposer quelque chose pour avoir l'air de... Donc, il me propose de le Lyonnais. J'ai mis 3 mois.
Avant d'accepter.
Je me suis renseigné pendant cette période. J'ai accepté avec une lettre en lui disant, je vous préviens, monsieur le Premier ministre, la banque est dans une situation beaucoup plus grave que ce que vous croyez. Et donc, j'accepte, mais je fais l'hypothèse que j'aurai le soutien de l'État chaque fois que nécessaire. Donc, j'avais une certaine lucidité. Je rentre fin 93, on arrête les comptes 93. J'arrête les comptes 93, mais je suis pas responsable. Hein, c'est pas moi, j'étais pas là en 93. 25 milliards de francs de pertes. Donc ça commence déjà à secouer. 6 mois plus tard, je change de conseil d'administration. Il y a quand même 5 administrateurs qui représentent l'État. 5 personnalités qualifiées. Ils ont rien vu, ni les uns, ni les autres. Je change les commissaires aux comptes. Tout ça, c'est sous la tutelle de la direction du Trésor et de la Banque de France. Qui ne
trouvent pas à y redire.
Ils ne trouvent rien à dire. Ils disent que j'exagère. Que, naturellement. Puis les nouveaux commissaires aux comptes viennent me voir 3 mois après avoir pris leur poste. Ils me disent, mais monsieur, vous êtes...
Loin du compte.
Loin du compte, hein. C'est pas 25, c'est 50. Et on finit à 75. L'État veut faire oublier ça. Donc, un, le Crédit Lyonnais, de toute façon, c'est pourri. C'est une structure pourrie. Et deux, pourquoi ? À la fin de l'histoire, ce qui, pour moi, est une bêtise innommable, le ministre des Finances de l'époque, Francis Maire, Mais les 10%, j'ai jamais vu ça, hein, de la part d'un État.
Oui, Francis Maire, en novembre 2002, s'énerve un peu de la façon dont ça se passe avec la participation de l'État dans le Crédit Lyonnais et il met un vendredi soir aux enchères.
Aux enchères, c'est 10%.
En 10 ans, on a
dit. Sans même me prévenir.
En 10 ans, on a 10%, on les met aux enchères au plus offrant, vous avez 24 heures pour envoyer par écrit vos offres. Et là, tout le monde, ou plus ou moins tout le monde postule et vous vous retrouvez le dimanche à 15h avec un actionnaire qui était déjà 10% de Crédit Agricole et un nouvel actionnaire qui s'est invité, la BNP.
Exactement.
Comment vous le vivez ce moment-là ?
Mal, parce que pour moi, le Crédit Lyonnais était redressé.
Donc il pouvait rester indépendant ?
Il pouvait rester indépendant. C'est une bêtise énorme faite à nouveau par l'État français. Parce que, à l'époque, le réseau international du Crédit Lyonnais était le plus beau réseau international de toutes les banques françaises. Alors maintenant, la BNP a grossi avec Paribas. Mais la vraie mesure qui aurait fabriqué une deuxième banque de la même qualité que BNP Paribas, ça aurait
été de laisser le Lyonnais seul.
D'attendre un peu, de laisser le calme revenir dans les relations avec la Générale qui avait été assez stupide pour nous attaquer de manière frontale quelques années avant.
Mais ça, on y reviendra un jour, mais c'est compliqué. La Société Générale, ils ont été attaqués dans un raid par Georges Pébrot, qui est le frère de Michel Pébrot, qui ensuite dirigera BNP Paribas. Vous refusez de soutenir Georges Pébrot dans la tête de la Société Générale. Et puis la Société Générale essaye de vous piquer des clients. Et puis finalement, vous vous retrouvez avec Michel Pébrot à la table du conseil d'administration.
Ouais. Non.
C'est quand même paradoxal.
Non, il n'est jamais rentré.
Pardon.
Qui avait 10%. À choisir, le ministre m'a obligé finalement de choisir entre deux mots, entre le Crédit Agricole
et le Crédit et la BNP. Mais vous vous retrouvez quand même le lundi matin avec deux actionnaires à plus de 10% qui sont deux de vos concurrents, c'est inédit.
Oui.
Et là, on part dans une espèce de nouvelle guerre comme la finance française sait faire, c'est-à-dire des semaines et des semaines de bataille dans tous les sens. Au Crédit Agricole, la structure saute, il y a des nouveaux patrons qui arrivent, ils changent un peu leur façon de travailler, BNP Paribas continue, et finalement, au final, c'est le Crédit Agricole qui vous récupère. C'était la moins mauvaise option, le Crédit Agricole ?
Oui, je pense. Je pense parce que ça permettait au moins, d'ailleurs on le voit encore aujourd'hui, ça a détruit le réseau international,
ce qui est dommage.
Ce qui est très, 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 très dommage. En revanche, ce qui a été protégé, c'est le réseau français.
Domestique.
LCL, hein. C'est le seul réseau national du Crédit Agricole. Donc, pour moi, c'est moins pire que, si ça avait été la BNP, il aurait fallu fermer. La BNP étant beaucoup plus développée sur le plan français que la Générale.
Les agences étaient souvent face à celles du Crédit Lyonnais et donc ça aurait
coûté beaucoup plus cher.
Il y a une question de personne dans ce genre d'opération. C'était tout sauf Michel Pébrot.
Ce que je n'ai pas aimé à l'époque, c'est... Comment vous dire ? Moi, j'ai l'habitude d'être très direct dans mes propos.
Ça, c'est plutôt rare dans vos professions.
J'ai pas beaucoup aimé ce que je suis bien obligé d'appeler l'hypocrisie de Michel Pébrot à l'époque. Parce qu'il s'est retrouvé le dimanche soir avec 17% du capital. Parce que
il avait ramassé sur les marchés.
Et puis il avait fait des opérations de marché. Et il est venu me voir de manière presque amicale, d'un ton rassurant sur le thème. Tout ça va très bien se passer, on va...
Oui, vous connaissez la phrase de l'époque. La fusion entre égaux, selon Michel Pébrot, c'est « je reste et vous partez
».
C'était ça qu'on disait à l'époque.
Pas, je ne la connaissais pas. Donc je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc j'étais persuadé qu'il allait déclencher une OPA. Et quand je me suis aperçu au bout de 48 heures qu'il ne se passait rien, je me suis dit, il va falloir la déclencher de l'autre côté. Voilà.
Dans la seconde partie de ce podcast, je vous propose de découvrir l'homme derrière le banquier.